RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonsoir et bienvenue sur France 24 et RFI pour cette nouvelle édition de Mardi politique. Dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons Olivia Grégoire, députée de Paris, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Mais d'abord, c'est Sébastien Chenu qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, vous avez été membre du Parti Républicain.
De l'UMP.
Vous avez aussi été membre du Parti Républicain, dès l'âge de 15 ans.
Oui, ça c'est très ancien,
Fait l'histoire très rapide. De Démocratie Libérale, puis de l'UMP, dont vous êtes devenu secrétaire général chargé de la diversité culturelle. Vous êtes l'un des fondateurs de l'association Gaylib, défense des droits LGBT au sein de l'UMP. En 2014, vous rejoignez le Rassemblement Bleu Marine de Marine Le Pen. Vous êtes élu député du Nord lors des législatives de juin dernier et vous êtes depuis peu porte-parole du Front National. On dit que vous êtes aujourd'hui celui qui met du baume au cœur de Marine Le Pen dans les tourments qu'elle traverse. Est-ce que c'est vrai?
Et si c'était l'inverse? Et si c'était Marine Le Pen qui mettait du baume au cœur?
Et vous qui traversiez des tourments?
Mais qui met du baume au cœur à ses troupes. Je crois que ce qui nous lie, lorsqu'on se retrouve dans l'opposition, dans l'adversité, ne doit pas nous faire oublier l'essentiel du combat qu'on mène, qui est un combat au service de nos idées, au service des Français, et que ce combat nous dépasse, la défense de nos idées nous dépasse. Donc ça ne sert à rien de somatiser. On a plutôt des raisons d'ailleurs de se réjouir. On a fait un score incroyable au présidentiel, on a fait élire des députés Front National au scrutin majoritaire à deux tours en duel.
Savez que c'est un peu une vision en trompe-l'œil, ça.
Non, mais d'accord, mais enfin, on n'a quand même jamais été aussi haut. Donc après, on n'a pas gagné, par définition.
Vous espériez l'être beaucoup plus.
Non, mais et puis on espérait même gagner, je veux dire, la présidentielle. Donc voilà, mais on peut toujours pleurer sur les renversés ou se dire, voilà, on en est là, comment on fait pour aller plus loin, pour convaincre les Français qui ne nous reconnaissent peut-être pas encore une certaine crédibilité sur l'ensemble des sujets, ou la capacité à gouverner la France. Comment on fait pour se remettre en question, pour ne pas être dans le déni, comme le sont les autres partis politiques, ceux qui ont gouverné, les Républicains ou le Parti Socialiste? Comment faisons-nous pour être demain un grand parti populaire?
Alors on va parler de tout ça.
D'opposition et de gouvernement, finalement.
Alors, vous n'êtes pas celui qui, aujourd'hui, console un peu Marine Le Pen?
Mais elle n'a pas besoin d'être consolée.
Elle a quand même accumulé les ennuis ces derniers temps.
J'allais dire, la seule chose qui pourrait, dont elle aurait besoin, c'est d'être consolée du traitement médiatique qui lui est réservé, parce que je dois dire que on ne lui passe rien, mais Marine Le Pen est une battante, elle fait un tour de France, elle rencontre ses militants, elle refonde son mouvement. Vous savez, j'ai connu des gens bien plus abattus que ça. Monsieur Fillon est parti, Monsieur Hamon est parti, Monsieur Mélenchon n'est pas dans une forme exceptionnelle. Vous savez, des gens abattus, on en voit partout. Marine Le Pen était encore aujourd'hui, hier soir, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, en train de porter le fer contre les projets d'Emmanuel Macron. Non, moi je la trouve plutôt combative.
Alors je parlais de tourments au pluriel. Le dernier en date, c'est l'affaire de la clôture des comptes du FN par la Société Générale et accessoirement ceux de Marine Le Pen, ses comptes personnels par HSBC. La Banque de France, qui a été saisie de l'affaire par le Front National, s'est exprimée ce matin dans ces termes. Les clôtures de comptes du Front National ne paraissent pas traduire un dysfonctionnement des banques au regard de leurs obligations réglementaires et ne laissent pas supposer de discrimination. Donc, si on comprend bien, la Société Générale serait dans son bon droit quand elle clôture les comptes du Front National.
Alors, il y a plusieurs choses. Vous voyez qu'il y a beaucoup de conditionnels dans tout cela.
Enfin, de précautions.
Voilà, de précautions. Tout cela est très timide. On a le sentiment que la Société Générale n'est pas particulièrement à l'aise. Elle a raison. Ce qu'elle fait est grave. Couper les vivres d'un parti politique qui n'a aucun problème bancaire, qui n'a aucun problème de dette vis-à-vis de la Société Générale, de prêt. Nous avons fait un prêt avec cette Société Générale il y a déjà de longues années. Il a été remboursé. Nous sommes clients depuis 15-20 ans de cette structure. Nous n'avons aucun problème d'aucune sorte. Marine Le Pen a proposé de lever le secret bancaire, qu'on mette les choses sur la table. Nous n'avons jamais été soupçonnés de quoi que ce soit. Et cette banque décide de façon unilatérale, comme elle peut le faire avec des particuliers d'ailleurs, avec des gens qui ont des petites retraites, des petits revenus, etc. Les banques se comportent souvent très mal d'ailleurs avec les Français. Eh bien là, ils se comportent avec la banque du Front National, peut-être parce que nous sommes évidemment un acteur gênant pour ces banques et pour ce système.
Alors, la Société Générale, dites-vous, aussi bien vous-même que Marine Le Pen, ne vous donne pas d'explication, ne vous dit pas pourquoi vos comptes sont clôturés. Pour vous, aujourd'hui, la seule explication politique, la seule explication possible, c'est justement une décision politique.
Ah oui, je le crois. Je crois que la Société Générale s'est dit qu'elle allait se payer le Front National parce que le Front National n'est pas un acteur du système. Bah, Monsieur Oudéa a quand même pour lui le fait d'être un acteur à la fois économique et puis c'est quelqu'un qui n'est pas complètement neutre. On connaît ses positions, si ce n'est contre le Front National, en tous les cas en soutien à l'adversaire qui a été Monsieur Macron lors des élections. Donc c'est quelqu'un qui ne nous est, c'est pas un ami, disons Monsieur Oudéa. Donc une banque décide. Pour des raisons, nous demandons à connaître les vraies raisons objectives. Pourquoi est-ce qu'on nous ferme nos comptes? Pourquoi est-ce qu'on veut nous empêcher de vivre? Peut-être parce qu'on n'arrive pas à nous battre électoralement. On veut nous casser les reins à travers ce bannissement bancaire. Moi, je crois que tout ça est très malsain. Et puis, je crois que tout ça fait écho. Et d'ailleurs, l'ensemble de la classe politique a plutôt condamné, ou en tous les cas indiqué qu'il était normal que le Front National ait une activité bancaire. Parce que ça pourrait arriver à qui demain? À d'autres, probablement. Si chaque fois qu'il y a un opposant au système, ce système bancaire, ou un système politique, eh bien on essaye de lui casser les reins. Est-ce qu'on est encore en démocratie?
Concrètement aujourd'hui, quelle est votre situation? Quelle est la situation bancaire du Front National? Vous avez une sorte de compte de secours, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, sur injonction de la Banque de France, c'est le Crédit du Nord qui vous a ouvert ce compte. Et sur le fonctionnement du Front National au quotidien aujourd'hui, ça vous pénalise gravement?
Ah mais oui, nos adhérents ne peuvent par exemple pas, ou ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, adhérer en ligne et payer par carte bleue. Vous imaginez ce que ça produit, ou renouveler leur cotisation. Alors que ce sont évidemment des transactions importantes pour la vie d'un mouvement. Ça, c'est la première des choses. Nous ne pouvons pas avoir de mouvement bancaire de grande ampleur. Nous ne pouvons pas avoir la vie normale d'un parti politique qui représente derrière lui plusieurs millions d'électeurs. Mais si, imaginez l'inverse, le Front National au pouvoir, une banque décide de couper les vivres à un parti politique d'opposition. Qu'est-ce qu'on aurait entendu en France? Donc voilà, moi je crois qu'il faut maintenant arrêter cette plaisanterie. Il y a urgence, tout permet d'avoir une activité bancaire tout à fait normale, ni plus ni moins que les autres, et arrêter cette chasse aux sorcières.
Marine Le Pen rencontre le Premier ministre demain.
Oui.
Ce sera à l'ordre du jour. Vous avez l'impression aujourd'hui qu'au sommet de l'exécutif, il y a une sorte de prise de conscience qu'un parti politique, adversaire politique, mais un parti politique, doit pouvoir bénéficier des services bancaires dans des conditions normales.
Non, mais c'est de la démocratie.
Oui, mais
on demande pas qu'on nous fasse une fleur.
Vous avez l'impression que le Premier ministre, que le ministre de l'économie sont aujourd'hui sur cette idée-là.
On va voir, si vous voulez, maintenant on attend un peu des preuves. Permettez qu'on puisse aujourd'hui douter, mais on va pas se laisser faire. Vous imaginez bien qu'on ne va pas se laisser faire parce que c'est une question de vie ou de mort du Front National et des idées que nous portons. Donc Marine Le Pen parlera des affaires de la France demain avec le Premier ministre. Elle parlera aussi de sa situation, je le pense.
Alors, autre motif de contrariété, tout frais celui-là, le député du Pas-de-Calais, José Évrard, a annoncé hier qu'il quittait le Front National pour rejoindre les Patriotes. Voilà comment a réagi Marine Le Pen ce matin, c'était chez nos confrères de VFM. Ah, je crois que nous n'entendons pas Marine Le Pen. On va écouter Marine Le Pen.
C'est le Black Friday de la politique, quoi.
Pas de mépris pour José Évrard.
Le grand jour de solde des convictions. Moi, je suis désolé, mais même dans le Nouveau Monde, faire de la trahison une vertu, pas chez nous. Vous voyez, il y a des ouvriers, des chômeurs qui ont déposé des jours pour faire sa campagne. Parce que ils croient dans le Front National. Et quand ils voient la manière dont M. Évrard se comporte aujourd'hui, et ils le font savoir, croyez-moi, d'après ce que je sais sur les réseaux sociaux, eh bien, ils se disent que non, ça n'est pas respectable. Ça n'est pas un comportement respectable.
On n'a pas le droit de changer de parti, Sébastien Chenu?
On a le droit, on doit quelques
explications. Vous en savez quelque chose?
Oui, moi je n'avais pas de mandat, vous voyez.
Ouais.
Quand j'ai rejoint le Front National, je n'avais pas de mandat, j'étais libre.
C'est
je
ça
ne devais rien
à
personne. Ah bah oui, quand on se fait élire député, que pendant 6 mois, on vote comme ses autres collègues, l'intégralité, qu'on co-signe tous les amendements qu'on a déposés ensemble, et qu'on vient un jour nous dire, bah, écoutez, je ne suis plus d'accord avec quoi? Monsieur Brun nous dit, je suis plus d'accord, le Front National a évolué sur sa position sur l'Union Européenne. Mais hier, il y avait un débat sur les symboles de l'Union Européenne, très important. Le drapeau européen va côtoyer désormais partout, tant que possible, le drapeau français. Monsieur Évrard, il était absent. Vous voyez, aujourd'hui, on a voté contre les ordonnances, vous savez, les fameuses ordonnances du Code du Travail. Oui. Monsieur Évrard, il était absent, il n'est pas venu. Alors, il y a un moment où il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Visiblement, il y a autre chose, il y a peut-être un problème de travail. Monsieur Évrard n'a peut-être pas forcément envie d'assumer sa fonction de député. C'est sûr que le boulot qu'il n'a pas fait était un problème pour nous, et on lui a fait remarquer, peut-être que tout ça vient de là. Mais je crois qu'il faut pas essayer habiller politiquement quelque chose d'autre. Visiblement, M. Évrard n'est pas à la hauteur du mandat qu'il a.
Oui, mais il va rester député.
Ah ben ça, écoutez, c'est son problème. Dommage pour les habitants de sa circonscription qui lui ont fait quand même confiance à Lens, qui ont fait confiance surtout au Front National, qu'il représentait, aux idées. Il a été élu, vous savez, avec un tract, avec la photo de Marine Le Pen en première page. Donc il avait bien compris, M. Évrard, que la personne qui lui permettait d'être élu, comme nous tous, hein, les députés du Front National, c'était Marine Le Pen.
Ouais, Je crois qu'il imaginait peut-être jours, pas à ce moment-là qu'il y aurait ce divorce entre Marine Le Pen et Florian Philippot.
Ah ben, vu les propos qu'il a tenus, c'est mon voisin d'hémicycle, hein, José Evrard, les propos peu amènes qu'il tenait sur Florian Philippot, effectivement, nous-mêmes, nous ne pouvions pas soupçonner qu'il avait d'autres idées en tête. Mais vous savez, la duplicité est un jeu vieux comme le monde. Moi, j'aimerais bien que M. Evrard revienne siéger lorsqu'on parle de l'Europe, que quand on parle de la casse sociale de M. Macron, etc. Mais il a pris la poudre d'escampette, on l'a plus jamais vu. Et ben, pourtant, les gens qui lui ont fait confiance attendaient de lui qu'il soit là pour participer au débat. Je pense que c'est tout simplement une image très triste de la politique que nous renvoie ce monsieur.
Au-delà de l'aspect, on va dire, presque sentimental de l'affaire, est-ce que le problème pour vous, ça n'est pas aussi que ça vous fait un député de moins et que ça vous éloigne encore de l'hypothèse, déjà relativement peu probable, mais enfin de l'hypothèse d'avoir un groupe à l'Assemblée ?
Non, mais nous avons fait une croix sur cette hypothèse d'avoir un groupe, puisque le gouvernement...
Oui, n'a pas voulu descendre le seuil à 10.
Voilà, n'a pas voulu mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale la possibilité pour nous de créer un groupe à 10. Donc on ne va pas se battre contre des moulins à vent. On s'organise autrement, on s'organise pour se faire entendre autrement, et même lorsqu'on veut, comme hier soir, le débat sur les symboles de l'Union européenne, nous priver de temps de parole, nous savons nous faire entendre autrement. C'est plus difficile pour nous, mais vous savez, c'est plus difficile pour nous, on l'a vu avec le problème des banques, dans tous les domaines. Et pourquoi c'est plus difficile ? Parce que, contrairement à ce qu'on dit, on est bien vivant et que, visiblement, on gêne beaucoup de gens.
Mais vous avez l'impression d'être utile à l'Assemblée ?
Ah oui, je crois que si nous ne parlions pas de certains sujets, si nous ne les mettions pas sur la table, certains sujets, on a parlé du terrorisme et notamment des allocations familiales versées à des familles de gens condamnés pour djihadisme, on avait demandé, nous, que tout cela s'arrête. Si on ne met pas ces sujets sur la table, qui va le faire ? Si on ne parle pas de la casse sociale qu'il y a à travers la loi, les ordonnances sur la réforme du Code du travail, qui va le faire ? La réalité, c'est que les députés du Front National, avec les faibles moyens qui sont les leurs, mettent sur la table des sujets que les autres ne veulent pas voir. Ce sont des sujets souvent de la vie quotidienne, c'est vrai. C'est peut-être pas des sujets très intellectuels parfois, mais c'est la vie quotidienne des Français, la hausse du forfait hospitalier, la baisse des APL, etc. Eh bien, nous montons au créneau sur tout cela.
La question qui se pose aujourd'hui pour le Front National, c'est son avenir programmatique. Quel corpus idéologique il va défendre dans les prochaines années. Florian Philippot, qui, rappelons-le, était extrêmement proche de Marine Le Pen, considère aujourd'hui que le FN trahit ses idéaux, qu'il est en train d'entrer dans le système. Écoutez-le, c'était ce matin chez nos confrères de BFM.
J'ai entendu le Front National appeler à ses listes communes avec LR au municipal. Ce qui d'ailleurs confirme un peu mon analyse sur une dérive du Front National.
C'est-à-dire, quelle est cette dérive ?
C'est-à-dire qu'il tombe là, complètement dans le système. Tendre la main à Laurent Wauquiez. Pensez-vous que c'est Laurent Wauquiez ? Laurent Wauquiez, qui a été ministre de Sarkozy, qui a toujours été un européiste acharné.
Le FN est en train de rentrer dans le système ?
Non, il faut que Florian fasse attention. On se souvient tous qu'il avait proposé cet été à Laurent Wauquiez de prendre un café avec lui. Vous vous souvenez pas ? C'était pourtant dans tous les médias. Florian Philippot, le premier qui avait proposé à Laurent Wauquiez de prendre un café. Donc voilà, tout ça, c'est de la mousse. Non, nous, évidemment, nous sommes toujours les premiers et les seuls, d'ailleurs, finalement, peut-être avec Nicolas Dupont-Aignan, il faut bien le reconnaître, à être un mouvement souverainiste qui défend les libertés dans ce pays, à être un mouvement qui défend aussi la nation et l'identité. C'est vrai, il n'y en a plus tellement. Et puis surtout, aussi, un mouvement qui lutte contre les insécurité, qu'elle soit sociale. Nous souhaitons le réformer, mais protéger notre modèle social. Eh bien, il n'y a pas beaucoup d'autres acteurs du monde politique qui souhaitent tout cela. Vous savez, je crois que vraiment, entre la vision qu'a Emmanuel Macron et finalement un certain nombre de ses alliés, les Républicains, on a vu que la moitié des députés des Républicains ou un tiers sont partis rallier plus ou moins Emmanuel Macron, et puis nous, il n'y a pas d'espace pour d'autres propositions politiques. La proposition politique portée par Emmanuel Macron, et puis la nôtre. Elles se font face, elles sont très différentes, et nous disons aux Françaises et aux Français, un autre chemin est possible.
Mais est-ce que Florian Philippot n'a pas tout de même raison, au moins en partie ? Est-ce que Marine Le Pen n'est pas en train de prendre un virage à 180 degrés ? Le 12 octobre, dans Valeurs Actuelles, elle disait, je la cite, « Dans de nombreux domaines, on peut améliorer la vie quotidienne des Français sans quitter l'Europe ni l'euro. » On est quand même là très éloigné de ce qu'elle disait pendant la campagne présidentielle.
Oui, si vous voulez, y a quand même une...
Non, mais vous comprenez bien que ça puisse poser des questions, ça.
En fait, les choses sont assez simples. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Où on veut être maître de son destin et on en a les moyens, ou alors on veut être soumis et on considère que la nation n'a plus son mot à dire, c'est ce que propose Emmanuel Macron. Nous, on veut être maître de notre destin. Le scénario, il est facile, c'est 1, 2, 3. 1, on récupère les frontières. Je peux vous dire que déjà, l'Europe, elle change de visage. Parce que si nous récupérons nos frontières, on sort de Schengen, eh bien ça veut dire que c'est valable pour les autres pays également. 2, on récupère les lois. Nos lois auront suprématie sur les lois, enfin les directives européennes. 3, on termine le processus, on récupère notre souveraineté monétaire. Ça se fait sur 5 ans.
En quittant l'euro.
C'est sur 5 ans. Et on se projette dans une autre construction. L'Europe des nations, vous savez, c'est Michel Poniatowski qui l'avait théorisé. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Donc, c'est-à-dire qu'on construit autre chose qui n'est pas cette Union européenne. 80% de ce que fait l'Union européenne est bonne à jeter à la poubelle. L'Union européenne s'est bâtie sur un mensonge. Nous sommes les seuls à pourfendre l'Union européenne dans l'hémicycle. Il n'y en a pas d'autres. Les autres sont dans des ambiguïtés, au mieux, ou alors sont des soutiens à l'Union européenne. On est les seuls. On veut un autre modèle européen qui permette au peuple d'être libre, souverain, et de créer aussi l'emploi, la sécurité, tout ce qu'on nous a vendu et baratiné, il faut bien le dire, pendant 20 ans.
Donc ceux qui disent que le FN a changé se trompent. En fait, les idées sont les mêmes. C'est juste... leur ordonnancement, le délai, le calendrier dans lequel vous les mettriez en œuvre qui a changé.
C'est la capacité à faire évoluer les choses que nous avons ordonnées différemment, c'est-à-dire un scénario en 3 points. 1, 2, 3 avec à chaque fois, il faut bien le savoir, une validation par le peuple. Parce que nous sommes pour le référendum et nous sommes pour respecter les résultats de ce référendum. Alors on peut avoir les positions de M. Asselineau ou M. Philippot, c'est-à-dire le Frexit, vouloir le retour aux francs, la télé en noir et blanc, etc. Tout ça c'est très bien, mais nous, on parle de l'avenir. Nous on considère que la France n'est pas trop petite, que la France peut se projeter et partir encore à la conquête du monde parce qu'elle porte en elle des valeurs, des messages, des énergies, de la créativité. Mais pour cela, il faut qu'elle se délie de ses chaînes. Il y a plusieurs façons de le faire. Nous, on fait ce processus en 3 points. 1, on sort on récupère nos frontières. 2, on récupère nos lois. 3, la souveraineté monétaire.
Le programme présidentiel de Marine Le Pen, c'était celui de Marine Le Pen ou c'était celui de Florent Philippot?
C'est celui de Marine Le Pen et celui du Front National. C'était un travail collectif qui portait la patte de Marine Le Pen. Et nous, on a regretté, par exemple, que ce débat sur l'Europe, l'Union européenne, c'est plutôt l'Union anti-européenne qu'on supporte en ce moment, ce débat sur l'Union européenne n'a jamais pu avoir lieu. Il n'y a jamais un moment où on a mis l'ensemble des acteurs politiques autour d'une table, avec des intellectuels, des économistes, enfin qui vous voulez, pour parler de ces sujets-là. On a fui le dernier débat en France sur l'Europe et l'Union européenne. C'était Mitterrand-Séguin. C'était il y a combien de temps? C'était Maastricht. Donc c'était il y a 20 ans, plus que ça, 25 ans. Donc par conséquent, on a besoin aujourd'hui de pouvoir mettre les choses sur la table. Et nous, on propose un chemin qui n'est pas celui d'Emmanuel Macron. Mais on peut nous faire tous les reproches qu'on veut. Mais nous, au moins, on propose quelque chose. Les autres, ils en sont où? C'est quoi leur pensée? Vous croyez que M. Wauquiez ait une pensée sur l'Union européenne ou sur l'Union anti-européenne?
Je le disais au tout début de notre entretien, vous avez créé Gaylib, association de défense des droits LGBT. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez solidaire des femmes qui dénoncent les violences, le harcèlement qu'elles subissent au quotidien?
Je crois qu'il faut se sentir toujours solidaire de ceux qui sont faibles et qui sont oppressés par des forts. C'est même un principe de vie d'être solidaire de celui qui souffre. Or, celui qui souffre, il souffre parce qu'il y a quelqu'un qui impunément le fait souffrir souvent et qui, protégé ou pas, par une autorité, par une fonction, etc. Alors, ça peut être des femmes, ça peut être des personnes âgées, ça peut être des jeunes, ça peut être des gays, ça peut être celui ou celle qui, évidemment, est identifié comme étant faible. Et il est abîmé par celui qui se sent fort. Eh bien, ces rapports de force dans notre société doivent être combattus. Ce n'est pas comme ça qu'une société doit évoluer. Donc, évidemment, j'ai à cœur de prendre très au sérieux ce que traversent un certain nombre de femmes dans notre pays.
Merci Sébastien Chenu.
C'est moi.
D'être venu dans cette émission. On se retrouve dans quelques minutes maintenant pour la deuxième partie avec Olivia Grégoire, porte-parole de du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. À tout de suite.
Écrire RFI 80 rue Camille Desmoulins 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Et rebonsoir, c'est la deuxième partie de Mardi politique et nous recevons maintenant Olivia Grégoire. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été, pour faire un rapide rappel de votre parcours, chargée de mission auprès du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin de 2002 à 2005. Oh, c'est pas si bien, puis vous allez voir, ça va aller vite. Collaboratrice de Xavier Bertrand de 2005 à 2007, à l'époque où il était au ministère des Affaires sociales. Puis vous avez été chef d'entreprise et finalement vous vous êtes mise en marche, non pas d'ailleurs pendant la campagne présidentielle, mais pour les législatives, et vous avez été élue députée de Paris. Vous êtes porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Pas de regret pour l'instant de vous être lancée dans cette aventure, parce que vous avez laissé votre entreprise de côté et donc vous vous êtes jeté à corps perdu dans la politique. Pas de regret ?
Ni remords ni regrets.
Vous avez absolument l'impression que ces six premiers mois du quinquennat d'Emmanuel Macron se déroule comme vous auriez pu l'espérer?
Oui. J'ai promis que j'allais faire des réponses de plus en plus courtes pour pouvoir parler de
plein de sujets. Il ne faudra pas trop non plus qu'on puisse tenir.
Mais oui, je suis extrêmement fière d'être parlementaire et de contribuer au travail du gouvernement. La tâche qui nous attend est immense. C'était les premiers mots du président au discours du Louvre. Oui, la tâche est immense. Le rythme est effréné. Les réformes sont profondes. La transformation qui est impulsée par le gouvernement et le président Macron touche l'ensemble des pans de la société. En ça, je suis extrêmement contente de pouvoir y contribuer à mon modeste niveau.
On va parler de l'Afrique pour commencer. Est-ce que vous avez pu aujourd'hui suivre le discours d'Emmanuel Macron devant les étudiants à Ouagadougou ?
Alors, j'ai suivi en partie, même si, comme vous le saviez, c'était un jour important à l'Assemblée, puisque nous avons voté les ordonnances travail, le vote solennel, avec une écrasante majorité, 463 voix pour. Donc ça veut même dire que les oppositions, dont les Républicains, ont salué le texte et ont voté pour. Ça nous a un peu empêché d'écouter l'intégralité du discours, mais j'en ai vu les grandes lignes. Et j'en suis plutôt fier aussi, parce que je trouve que le président a eu un discours qui avait beaucoup d'ampleur, qui a abordé beaucoup de sujets.
Vous avez l'impression qu'il tourne vraiment une page, même si cette expression est galvaudée, parce qu'elle a été employée par beaucoup de ses prédécesseurs, mais vous avez l'impression qu'il y a une rupture aujourd'hui ?
L'expression est galvaudée, j'ai le sentiment qu'il y a une rupture. Je crois que Senghor disait joliment, il suffit de nommer les choses pour qu'apparaisse le sens sous le signe. Nommer les choses en matière de passé, nommer les choses en matière de colonisation.
Et Camus disait mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde.
Tout à fait, mais je voulais changer un peu parce qu'on cite souvent Camus.
Non, mais ça se complète.
Voilà, donc ça se complète et je pense que le discours qu'il a fait, abordant tout à la fois les problèmes politiques, migratoires, démographiques, culturels, est un discours extrêmement global. Il a pas, c'est un tabou quand même encore aujourd'hui, ces sujets sur le passé. Moi, je suis historienne d'origine. On n'en parle pas si facilement de la colonisation, de la décolonisation, de la responsabilité de la France. Et j'ai trouvé que le président n'avait éluder aucun sujet.
Et les rapports restent parfois, cependant, assez tendus. Je ne sais pas si vous avez pu voir les quelques échanges avec les étudiants. On sent parfois du ressentiment, de la tension, des critiques assez amères.
Je crois qu'il y a beaucoup de choses rentrées. On parlait de tabou il y a quelques minutes. Le tabou est un terme de psy. Je pense que dans l'histoire entre la France et l'Afrique, il y a beaucoup de choses qui ont été tues, pas dites, depuis des dizaines d'années. Et je pense qu'effectivement, il y a certainement de l'amertume, des incompréhensions, et que ça prendra un peu de temps pour que l'amitié dont parle le président, et non pas la politique africaine de la France, dont il a dit qu'elle n'existait plus, mais l'amitié franco-africaine qu'il nous faut aujourd'hui renforcer et développer, puisse vraiment exister. Donc, bien sûr, il y a de l'amertume, c'est lié au passé. Je pense qu'on est en train, effectivement, de changer de façon de procéder.
Emmanuel Macron veut des partenariats avec l'Afrique, veut promouvoir l'entrepreneuriat. Vous qui suivez de près la vie des TPE, PME, très petites entreprises, moyennes entreprises, est-ce qu'il y a, selon vous, un potentiel économique en Afrique qui est sous-estimé par les chefs d'entreprise français ?
Totalement, par les chefs d'entreprise d'ailleurs du monde entier, je pense. Il me semble que l'Afrique...
Pas par les chefs d'entreprise chinois.
ça, vous avez totalement raison, mais j'irais peut-être par les chefs d'entreprise européens.
Enfin, concentrons-nous sur la France.
Mais la France, vous avez raison. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'au-delà des mots, le président a annoncé des mesures concrètes en matière de soutien aux entreprises. Sans être technique, on va mettre en place un fonds qui va être abondé aux alentours d'1 milliard d'euros et qui va permettre de contribuer, notamment en matière de formidables talents en Afrique aujourd'hui, en matière de nouvelles technologies, tout ce qui concerne aujourd'hui la nouvelle économie. On le voit, il y a beaucoup de réalisations en Afrique, de start-up très prometteuses, aussi de micro-banking, d'entreprises spécialisées dans la finance très locale. Il y a d'énormes projets à développer et les Africains sont extrêmement innovants. Je le dis parce qu'il y a aujourd'hui une manifestation d'ailleurs qui en témoigne, qui est Diversity Days, qui vient de se lancer et qui met en avant justement des entrepreneurs issus d'Afrique, issus du Maghreb, issus du monde entier, mais spécifiquement d'Afrique, pour mettre en avant leurs talents. Il y a énormément de potentiel en Afrique. Je pense beaucoup plus qu'on peut même l'imaginer. Voilà.
Par exemple, je voyais, en préparant cette émission, une société française qui vient de lancer une société d'assurance 100% digitale. Je ne sais pas si vous avez vu ça, en Côte d'Ivoire, dans un pays où, dit cette entreprise, le taux d'assurance moyen sur les véhicules est de 20 à 30%. Là, on s'assure, disent-ils, en 3 clics sur le téléphone. On paye par son téléphone. Ça, c'est assez malin.
Alors, c'est assez malin et c'est un peu ce qui va se passer.
C'est le genre de choses qu'il faut promouvoir, encourager.
Parce que quand on a, je dirais pas forcément pris toutes les étapes d'un développement, il y a des tournants et des virages économiques que l'Afrique n'a pas pris. Force est de constater que parfois, les pays qui n'ont pas pris ces virages économiques vont parfois beaucoup plus vite pour rattraper les autres. Je prends l'exemple du téléphone mobile.
Paiement par mobile, d'ailleurs.
Exactement. Oui. Ils sont loin devant nous, les Africains. Oui. Le nombre de cartes SIM par habitant en Afrique est hallucinant par rapport au nombre de téléphones qu'on a en France. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus à l'aise avec ces technologies qu'un certain nombre d'Européens. Je prends l'exemple de la télémédecine, un sujet que je connais bien. On a eu du mal à le déployer en France pendant plusieurs années. Et juste sur l'exemple africain, il y a par exemple un problème de diabète qui est assez lourd. C'est une maladie chronique très répandue en Afrique. Et vous avez des déploiements aujourd'hui d'outils technologiques de télémédecine en Afrique pour soigner à distance et surveiller ces constantes vitales lorsqu'on est diabétique. Ils sont plus en avance que dans certaines contrées que nous en France, oui.
On va rester dans le domaine de l'économie. Le Premier ministre a présenté hier les grandes lignes du projet de simplification des rapports entre l'administration d'un côté et les entreprises et les particuliers de l'autre. On va écouter Édouard Philippe résumer l'esprit de cette réforme et on en parle après.
L'objectif de ce gouvernement, l'objectif que je m'assigne en tant que chef de ce gouvernement, c'est de réparer le pays, de le transformer et de le réparer. Non pas de le révolutionner, non pas de tout casser, mais de procéder à une transformation profonde qui permette de réparer ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionne plus. Et bien avec ce projet de loi relatif à l'État au service d'une société de confiance, c'est pleinement ce que nous voulons faire, réparer et transformer la relation entre nos concitoyens et l'administration.
Alors la nouveauté, la grande nouveauté de ce texte, c'est le droit à l'erreur, c'est-à-dire que l'on peut se tromper dans une procédure, dans une déclaration, sans être forcément soupçonné de l'avoir fait intentionnellement, et que dans ce cas-là, il n'y a pas de sanctions ou des sanctions très diminuées, une sorte de présomption de bonne foi, en quelque sorte. Mais pour que ça marche, ça, il faut que l'administration joue le jeu. Et ça, c'est pas toujours facile.
Alors, vous avez totalement raison, et Gérald Darmanin l'a redit d'ailleurs aux côtés d'Édouard Philippe, tout le secret de ce projet de loi pour la confiance envers l'administration va être dans l'art de l'exécution. Il va nous falloir le déployer et l'exécuter, comme on dit, de façon précise. Je suis pas très inquiète vis-à-vis des administrations. J'étais encore cet après-midi au sein de la commission des finances avec les services qui déploient impots.gouv.fr, qui est quand même une plateforme qui fonctionne très bien, qui nous permet à nombre d'entre nous de disposer de tous nos informations fiscales et de payer nos impôts. Je pense que l'administration est aujourd'hui bien plus prête qu'il n'y paraît.
Mais pourtant,
à prendre ce virage.
Thierry Mandon, qui avait été secrétaire d'État sous François Hollande, chargé de la simplification à la suite de ce choc de simplification qu'avait annoncé le président de la République, Thierry Mandon a beaucoup déploré l'inertie, la lourdeur, peut-être même au fond une forme de mauvaise volonté de l'administration. L'administration, elle n'a pas changé. C'est toujours la même aujourd'hui.
Alors, c'est toujours la même.
Il n'y a pas eu le grand turnover, le spoil system, donc c'est toujours la même.
Pas partout. Dans nombre de directions d'administration, oui, auprès des ministres notamment, mais pas partout. Moi, d'ailleurs, je suis pas favorable au tabula rasa et à tout l'ancien monde à la poubelle. Il y a des bonnes choses dans le passé aussi. Ce qui change aujourd'hui, c'est que je pense qu'il faut prendre le sujet de façon plus large. Ce qu'avait fait Thierry Mandon, que je salue parce que je trouve que c'était remarquable, c'était bien, mais c'est pas une mission, c'est pas un état d'esprit, la simplification. Ce qu'il faut, c'est expliquer à l'administration, et enfin, c'est rien d'expliquer à l'administration. Ce qu'il faut, c'est parler avec l'administration, et c'est le sens de ce que fait aujourd'hui Gérald Darmanin avec cette grande consultation sur l'action publique 2018-2022. C'est quoi cette concertation ? En fait, le problème, il est là. L'enjeu, c'est de trouver la réalité des missions aujourd'hui de notre administration. Il faut qu'on mette à plat les missions des administrations. Le monde a changé, vous le dites vous-même, et c'est pas tant des administrations qui sont dans une forme d'inertie, c'est qu'aujourd'hui, il faut pas prendre les choses par le petit bout de la lorgnette, pas changer les missions d'une administration au sein d'un projet de loi comme ça. Il faut prendre les choses de façon beaucoup plus globale pour valoriser les missions des agents de service public au sein des nouvelles missions qu'on va leur donner. C'est tout l'enjeu de la concertation Action publique de Gérald Darmanin et du nouveau membre de notre gouvernement, Olivier Dussopt.
Ouais, on en parlera d'ailleurs.
Avec plaisir.
Si ça marche, si l'administration joue le jeu,
oui.
Est-ce que vous pensez que ça peut être un élément vraiment important, oui, de fluidification de l'économie? C'est un verrou qui sauterait et qui permettrait une activité économique plus fluide?
Alors oui, je voudrais juste qu'on n'enferme pas ce projet de loi de confiance envers l'administration. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on tire le fil de la confiance. Après, la confiance
aussi
dans la vie politique.
C'est aussi envers les particuliers, c'est ça que vous voulez
alors,
dire?
Alors, c'est envers les usagers, et excusez-moi, j'y suis sensible, parmi les usagers aussi, envers les plus fragiles d'entre nous, les personnes handicapées. Ouais. Je prends un exemple sur les personnes handicapées qui seront concernées. Il y a aujourd'hui un sujet difficile pour eux lorsqu'ils vont à la CAF ou dans les services. À chaque fois, ils doivent ressortir leur numéro, raconter leur handicap. C'est pas toujours facile. Je veux dire, quand on a un handicap à vie, ça a été le cas de mon père pendant des années. Mmh. Tous les ans, il fallait réexpliquer à la CAF que ça ne bougeait pas. Quand vous êtes handicapé, vous ne remarchez rarement. Si vous voulez. Donc c'est aussi difficile pour les handicapés. Donc l'idée, c'est de permettre aux usagers d'avoir un rapport qui n'est plus dans un rapport de difficulté, qui est dans un rapport de confiance, comme veut le dire le texte. Je pense aussi aux entrepreneurs. Je fais beaucoup de déplacements en ce moment au sein de la loi entreprise que portera Bruno Le Maire en avril. Les entrepreneurs que je vois, bien souvent, les petits entrepreneurs, vous savez, la première difficulté dans une petite boîte quand on n'y arrive pas, c'est on paye pas son URSSAF, on paye pas sa TVA. Et on se cache. Voici typiquement un projet de loi qui répond à ça et qui dit, vous cachez pas, vous avez une difficulté, l'administration n'est pas là pour vous faire du mal, l'administration est là pour vous entendre, on va trouver une réponse à votre difficulté. Et vous voyez, par exemple, moi, quand j'avais une petite entreprise, il y a une chose qui m'empêchait de dormir souvent la nuit, c'était le contrôle fiscal, le fameux. On a tous peur, quand on a une petite boîte, d'avoir, et d'ailleurs une grande boîte, un contrôle fiscal. Le simple fait de pouvoir demander un rescrit, d'appeler l'administration en leur disant, est-ce que vous pouvez venir chez moi, me dire, par exemple, si j'avais un contrôle fiscal, si je suis dans les clous, ça permet de rassurer les entrepreneurs. Et donc, je veux pas, c'est pas la loi qui va permettre de booster de 10 points notre PIB, mais en tout cas, c'est une loi qui va permettre, sur de nombreux petits blocages, effectivement, de fluidifier les choses et d'améliorer les rapports.
Trois membres du gouvernement viennent de rejoindre La République En Marche, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, deux membres du gouvernement, puisque Thierry Solaire n'est pas membre du gouvernement, il est député. Qu'est-ce que vous pensez de ces changements de casaque? On a l'impression que tout le monde a un peu perdu sa boussole depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Parce qu'en même temps, les constructifs se divisent aussi, un nouveau parti qui s'appelle Agir vient d'être mis en place. Quel regard vous portez sur ce phénomène, sur ce qui se passe?
Je pense que la recomposition politique impulsée depuis la naissance d'En Marche et l'élection du président et du gouvernement change la donne. Et je pense que, c'est ce que je disais hier, je pense qu'aujourd'hui le recrutement gouvernemental se fait principalement sur la compétence. Quand vous entendez les ministres que nous avons aujourd'hui au quotidien, je peux vous dire que ce sont de grands et de vrais techniciens. Mmh. Muriel Pénicaud encore cet après-midi, ou la garde des Sceaux. Et typiquement, sur le choix, les choix qui sont faits sont des choix qui sont faits à l'aune de la compétence et pas de l'étiquette. Alors, c'est vrai que ça perturbe. Moi, je suis pas perturbé. Je vois deux choses. Je vois un mouvement qui rassemble, qui mène une transformation profonde à une cadence rapide pour faire changer les lignes. Je vois autour de nous, partout, des partis qui excluent et des partis qui ont perdu effectivement leur boussole idéologique. Mais là où certains excluent, c'est vrai que nous, la porte est ouverte. Et ce matin, on a chaleureusement accueilli Thierry Solaire sans aucun problème au sein du groupe.
Sauf qu'il va peut-être devoir renoncer à être questeur.
Il renonce à être questeur. On n'a pas laissé la polémique se déployer. Hier, François de Rugy avait dit
que c'était nécessaire.
Ben c'est nécessaire. Il en va de l'équilibre de l'Assemblée. C'est fondamental. Questeur, c'est pas rien. Vous savez, il y a 550 millions d'euros de budget à l'Assemblée nationale. Un questeur, c'est aussi responsable de ça. Il me semble normal que l'opposition siège aux côtés de La République En Marche.
Alors, puisque vous avez parlé d'Olivier Dussopt, qui a donc qui était député socialiste et qui a rejoint le gouvernement comme secrétaire d'État à la fonction publique. Olivier Dussopt a voté contre le projet de loi de finances pour 2018, un texte présenté d'ailleurs par celui qui est maintenant son ministre de tutelle, Gérald Darmanin, contre le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, contre le texte sur les ordonnances sur la loi travail, projet phare d'Emmanuel Macron. Franchement, là...
En première lecture.
Oui, d'accord, mais enfin, il a voté contre.
Il a voté.
Franchement, là, est-ce qu'on n'est pas dans le registre de la contorsion extrême?
Alors, moi, je suis plutôt souple et j'adore...
Oui, mais attention au claquage. Mais...
Oui, enfin, quand on est souple, justement, c'est souvent quand on est souple qu'on évite les claquages, vous m'accorderez. Olivier Dussopt, au-delà d'avoir voté contre, ok, c'est qui? C'est quelqu'un qui est depuis plusieurs années parlementaire.
Vous allez me dire, c'est un bon technicien.
C'est
il
un bon
le
technicien.
Sujet. D'accord.
Voilà.
Enfin, il était d'accord avec rien.
Oui, bah,
et maintenant,
constater...
il va devoir être d'accord avec tout.
Alors, vous me connaissez en général, je réponds
ce que
à toutes
dire,
les
parce
questions.
Que l'idée,
mais...
c'était, oui, mais on si fait de lui, la politique
ça...
autrement.
Oui, mais si lui, ça ne le dérange pas, il a accepté.
Oui, mais la cohérence, elle ne se pose pas que pour lui. Elle se pose aussi pour le gouvernement et le Premier ministre et le Président de la République qui le nomme.
Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est une question, sincèrement, en termes de cohérence qui relève d'Olivier Dussopt. Ce que je sais, c'est qu'il est important qu'on ait des techniciens, des connaisseurs des petites et moyennes villes de France. Mmh. On mène quand même une sacrée transformation avec les collectivités locales. Et je pense qu'il est intéressant d'avoir quelqu'un comme Olivier Dussopt qui, au-delà d'avoir voté contre, pardon, mais on a beaucoup échangé dans l'hémicycle avec lui, c'est aussi quelqu'un avec qui on a eu des échanges très courtois. On a trouvé des points d'accord aussi sur des négociations, sur des amendements que vous voyez pas parce que c'est moins médiatique que de voter contre sur un projet de loi.
Je voudrais qu'on parle un peu de l'égalité homme-femme, puisqu'Emmanuel Macron samedi dernier a déclaré cette question grande cause du quinquennat. On écoute le Président de la République.
Cette honte doit devenir celle de ces auteurs de violence. Et c'est surtout une honte civique et politique, une honte nationale. Car la République, en échouant à éradiquer ces violences, a échoué dans sa vocation même, qui est celle d'éduquer, de civiliser, de protéger.
C'est un sujet évidemment extrêmement important, qui prend une ampleur considérable. L'éducation, comme moyen prioritaire régler cette question, est-ce que ça risque pas d'être long si on s'en tient à l'éducation? Parce qu'il faudra peut-être une génération alors pour changer les mentalités.
C'est un sujet, c'est 20 minutes tabou, c'est un sujet qui était quand même encore relativement tabou. En tant que femme, que ce soit des violences verbales ou des harcèlements divers, nombre d'entre nous y ont été confrontés. Je répète ce chiffre et je suis navrée parce que c'est pas très agréable, mais il faut que les gens mesurent. Il y a moi 15 ans, j'étais en agence de communication, on faisait des campagnes de lutte contre les violences faites aux femmes, déjà. 15 ans après, le chiffre n'a pas changé. Une femme tous les 3 jours meurt en 2017 en France sous les coups de son ami, de son copain, de son compagnon. Meurt. C'est beaucoup plus large que l'éducation, ce que propose le président. C'est une démarche déjà interministérielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais parler un peu de budget, mais j'en suis navré, mais normalement, l'égalité homme-femme, c'était une ligne dans le budget, c'est 30 millions d'euros cette année. Là, on met 420 millions d'euros, c'est-à-dire qu'on rassemble la justice, l'intérieur, l'éducation, différents ministères pour agir ensemble. Il n'y a pas que l'éducation, il y a aussi la coercition, la répression, il y a aussi la capacité à libérer. Donc
il y a une volonté forte de se donner les moyens de prendre ce problème-là à bras-le-corps.
Et nous le ferons. Et nous le ferons avec des réponses coercitives que nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Intérieur, la commission des lois et nombre de femmes de La République En Marche y siègent et portent ce sujet. Nous travaillons sur la qualité du délit, la façon dont le délit sera caractérisé, notamment pour les violences verbales dans les transports ou autres. Nous travaillons aussi très sérieusement, et Marlène Schiappa était encore au Sénat cet après-midi, sur l'âge du consentement, qui n'est pas un petit sujet. Pour ma part, au plan personnel, je suis plutôt favorable à 15 ans. Nous travaillons sur ce sujet, mais de façon extrêmement globale. Et oui, il y aura des changements très précis en matière de signalement. On travaille aussi sur une plateforme qui va permettre de signaler en ligne au service de gendarmerie pour ne pas avoir à décrocher forcément son téléphone, ce qu'on peut pas faire quand on est dans ces situations. Donc on prend le sujet de façon globale et on va y apporter des réponses de tous les ministères. C'est-à-dire que l'ensemble du gouvernement est mobilisé sur le sujet.
Merci Olivia Grégoire.
Merci
d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de Mardi Politique. Merci à Camille Néron et Laure Wagner qui l'ont préparé. Et Mardi Politique, évidemment, revient mardi prochain. Bonne soirée.